France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen. France Musique.
Je suis Philippe Bianconi. Je suis né le 27 mars 1960 au bord de la Méditerranée à Nice et je suis pianiste.
De Nice, qui était donc à l'époque dirigé par Pierre Cochereau, et vous êtes un peu Philippe Bianconi, une sorte de fils de la décentralisation, on pourrait dire, parce que Pierre Cochereau, qui voulait vraiment que son conservatoire ne soit pas simplement un conservatoire de région, mais qu'on ne soit pas forcément nécessairement passé par Paris pour réussir, vous étiez peut-être un petit peu son porte-drapeau sur cette idée-là, Philippe Bianconi, donc rester à Nice pour faire toutes vos années d'études et ensuite passer les concours et les premiers concours avec les jeunesses musicales, on va y revenir dans un instant. Mais donc, c'est la fin de l'enseignement de Madame Delbert Février, la rencontre avec Gabi Casadesus, tout ça, c'est à peu près quand vous avez 17 ans?
À peu près, un petit peu, Gabi Casadesus, un petit peu avant, j'avais 16 ans. Alors, effectivement, Madame Delbert Février était très proche des Casadesus. Robert, à l'époque, était déjà décédé, il est mort en 72, mais elle m'a présenté à Gabi. Et j'ai commencé à travailler avec Gabi Casadesus, d'abord à l'Académie Ravel de Saint-Jean-de-Luz. Je me souviens, c'était mon entrée en terminale. J'avais eu l'autorisation exceptionnelle de l'établissement du lycée Masséna à Nice de pouvoir manquer la rentrée. Et donc, j'ai commencé à travailler là avec Gabi Casadesus.
Comment était-elle ?
Oh, ben, elle était merveilleuse parce que, bon, évidemment, je pense qu'elle était d'emblée bien disposée à mon égard puisque c'était Simone Delbert Février qui m'avait recommandé. Et puis, elle aussi, tout de suite, s'est prise d'affection pour moi et a eu envie de m'aider, enfin de me faire travailler. Et j'ai fait le voyage à Paris une fois par mois à peu près, où je passais la journée et je travaillais avec Gabi Casadesus toute la journée chez elle, voilà, pendant que je suivais mon année de terminale.
C'est elle qui vous a beaucoup fait découvrir Ravel, qu'elle a connu?
Alors, découvrir, non, parce que j'en avais déjà un petit peu travaillé à Nice. Mais bien évidemment, avec elle, ça a été merveilleux parce que elle avait sans arrêt des références à ce que Ravel lui-même lui avait dit à elle et à son mari. Donc évidemment, là, tout d'un coup, ça prenait une autre dimension. D'ailleurs, l'œuvre pour piano de Ravel n'est pas si gigantesque que ça et j'ai eu l'occasion d'absolument tout travailler avec elle. Évidemment, pour moi, ça n'avait pas de prix. C'était un trésor qu'elle me transmettait.
Dans le travail au clavier, le travail musical, la conduite de la phrase, qu'est-ce qu'elle a poursuivi, a fait fleurir particulièrement?
Alors, je crois que le terme, c'est elle a poursuivi. C'est-à-dire qu'on était effectivement dans la même lignée. Il n'y a pas eu de rupture non plus avec ce qui m'avait été donné auparavant. Donc, ce soin apporté à la sonorité, au phrasé, le respect du texte, ça c'était quelque chose pour elle qui était très 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 important. Gabi. C'était quelqu'un qui n'aimait pas qu'on fasse de l'esbrouf et qu'on se serve du texte pour qu'on distorde un texte musical dans tous les sens pour exprimer ses propres sentiments et ses propres états d'âme. C'était pour elle très 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 important. Elle a énormément contribué à continuer à développer ma technique digitale qui était bonne à l'époque mais qui avait besoin encore d'être développée, affermie, la souplesse bien entendu. Mais quand je parle de technique digitale, moi ce qui m'a frappé c'est que elle avait une main qui était assez forte. Elle n'avait pas une main très très fine comme on peut imaginer parfois chez certaines femmes. Elle avait une main presque masculine, très forte. Et elle avait les bouts des doigts vraiment écrasés.
Elle allait au fond du clavier.
Elle allait tellement au fond du clavier. Et bon, moi, quand je l'ai connue, elle avait 75 ans. Donc, ça faisait 70 ans qu'elle allait au fond du clavier. Vous pouvez imaginer que ça avait laissé des traces sur sa morphologie. Et j'ai toujours été très, très étonné de voir ses bouts du doigt véritablement écrasés. Et j'en avais l'exemple sous les yeux quand elle se mettait au piano pour me montrer des choses. J'étais fasciné par cette main qui était à la fois d'une grande souplesse et à la fois qui allait chercher le son vraiment au fond des touches.
Philippe Biancony, vous avez, je l'ai dit, sauté la case parisienne. Quand vous allez une journée à Paris, vous allez voir Gabi Casadesus. Vous n'avez donc pas connu ce conservatoire de Paris. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous en avez des regrets aussi?
Alors, je ne peux pas dire que ça a été difficile à l'époque. J'en ai eu des regrets. Maintenant, je crois que j'ai passé l'âge des regrets, ou si à mon âge je dois encore avoir des regrets, là c'est très embêtant quand même. Hein. Mais j'en ai eu des regrets parce que j'ai pris conscience à un moment, un peu plus tard, que quelque chose m'avait manqué malgré tout. C'est-à-dire que ce dont je parlais tout à l'heure, à propos du Conservatoire de Nice que j'ai connu jeune, cette famille, cette émulation, tout d'un coup, ça a cessé. Et je me suis retrouvé tout seul. Cette expérience qu'on a dans ces grandes écoles où on noue des amitiés qui parfois perdurent toute la vie, où on noue aussi des partenariats avec d'autres musiciens avec qui on fait de la musique de chambre, avec ce côté compétitif qui peut parfois être difficile, qui peut parfois être mal vécu, ne m'a pas été donné finalement. Mais tout cet aspect-là d'émulation, d'être ensemble, de pouvoir avoir accès aussi à certaines choses que une grande école vous offre en termes de masterclass avec des grands artistes invités, des partenariats aussi parfois. Il y a un tas de choses qui se nouent comme ça, que je n'ai pas eues. Et ça m'a manqué. Je pense qu'il faut absolument, absolument, à cet âge-là, pas être seul dans son coin. Moi, j'étais dans une espèce de cocon. C'était bien, c'était confortable, c'était douillet, mais c'était pas suffisamment une école ni de la vie, ni de la carrière.
Alors l'émulation, vous allez la trouver quand même d'une autre façon, Philippe Bianconi, qui est celle des concours. C'est quand même le moyen aussi de se retrouver là, face à des gens qui ont a priori un niveau équivalent, même si voilà, c'est aussi une affaire de goût. Enfin,
oui.
Moi, il y a quand même des choses
qui
sont...
Ou même plus fort, parce que voilà. Les premiers concours, j'ai été jeté dans ces concours face à des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi. Mais ça, c'est très bien.
Mais alors, je me demandais, est-ce que, parlons-en, ce concours des jeunesses musicales à Belgrade en 1977, qu'est-ce que vous retenez de ce concours que vous remportez, mais j'imagine, de l'Europe de l'Est en 1977, enfin de beaucoup de choses.
Alors, je l'ai remporté, donc évidemment ça a été une grande joie. Ça a été un peu aussi un argument massue que j'avais là pour mes parents. Parce que à la clé, il y avait pas mal d'engagement. Je dis à mes parents, écoutez, vous voyez, j'ai remporté un concours... J'ai plein de concerts à préparer, je ne peux plus faire d'autres études là, c'est pas possible. Et donc, j'ai senti leur inquiétude et en même temps, ils m'ont dit, bon écoute, on est là, on te soutient, on sera toujours là. Je leur en garde une reconnaissance éternelle, bien entendu. Puis alors, en effet, je partais en Europe de l'Est. La Yougoslavie avait un statut un peu particulier à l'époque. Hein. C'était un rideau de fer un peu assoupli, et c'était merveilleux pour moi de découvrir une autre culture, découvrir des gens qui étaient extraordinairement attentifs. Bon, j'étais le plus jeune du concours, alors je sentais que toute l'organisation et tous les volontaires, il y avait des jeunes volontaires, musiciens eux-mêmes, mais qui aidaient à l'organisation du concours, qui devait avoir entre 20 et 25 ans, qui s'occupait de moi comme si j'étais une petite chose fragile. Enfin, c'était véritablement extraordinaire pour moi. Et puis, en même temps, effectivement, découvrir quelque chose de très différent. Ce que je garde, qui m'a vraiment frappé, c'est l'odeur dans les villes. C'est-à-dire que les gaz d'échappement des voitures, je ne sais pas comment était raffinée leur essence, mais les gaz d'échappement avaient une odeur différente, qui n'était pas très agréable d'ailleurs, hein, qui flottait dans les villes et qui était très différente de ce qu'on pouvait sentir dans nos villes à l'époque. Ça m'avait surpris et un petit peu choqué aussi. Et je garde ça très, 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 très fort en moi. C'est curieux comme il y a des choses qui ne sont peut-être pas très importantes, mais qui restent gravées en vous des années après.
Musique, les grands entretiens de Philippe Bianconi.
Vous allez passer pas mal de concours. Pour le dire aux auditeurs, il y a le concours de Munich en 79,
oui.
Qui est important.
Oui.
Et il y a aussi à Cleveland le concours Kazatsu en 81,
oui.
Très
oui.
Important. Et en plus, Kazatsu, vous, élève de Gabi, veuve de Robert, enfin bon,
bien
tout
sûr.
Ça. Et puis, il y a le concours Van Cliburn en 85. Voilà des grands concours internationaux. C'est avec le concours des jeunesses musicales de Belgrade déjà le début des voyages et des engagements.
Oui.
Et
oui,
finalement,
oui.
Le métier qui vient, hein, et qui s'impose d'une
Absolument.
Certaine façon, de jouer à la fois en récital, Philippe Bianconi, mais aussi
avec
orchestre. Je les ai tous passés un petit peu vite, mais évidemment, on a envie de vous entendre nous raconter cette expérience aussi du concours Van Cliburn, dont vous remportez la médaille d'argent, et qui est là, pour le coup, le vrai début de votre carrière. Vous êtes une star aux États-Unis.
Oui, alors, enfin, une star, je ne sais pas, mais en tout cas, de tous les concours que j'ai passés, le Van Cliburn reste le plus important, parce qu'on peut dire qu'il est au niveau des très grands concours internationaux. J'ai remporté le deuxième prix, donc la médaille d'argent, et j'étais absolument stupéfait de voir que avec un deuxième prix, j'ai récolté beaucoup plus d'engagement que je n'en aurais eu avec énormément d'autres concours dans le monde, même avec un premier prix. Deuxième prix au Van Cliburn, ça a été absolument, pendant les trois années qui ont suivi, ça a été extraordinaire. Il y a eu effectivement peu de retombées en Europe, mais énormément de concerts aux États-Unis.
Vous avez 25 ans.
J'avais 25 ans. Et donc, pendant trois ans, je suis allé aux États-Unis. J'y allais à peu près quatre fois par an. Et j'y passais plusieurs semaines. J'ai passé jusqu'à 6 ou 7 semaines d'affilée pour enchaîner les concerts. Ce qui a fait d'ailleurs que, après, pendant des années, beaucoup de gens ont cru que je m'étais installé aux États-Unis. Mmh. Parce que j'y passais beaucoup de temps et parce que l'essentiel de mon activité était là-bas. Et donc, j'ai parcouru le pays dans tous les sens. J'ai été dans les grandes villes, j'ai été dans des trous paumé du Dakota du Nord. Enfin bon, vraiment, j'ai été absolument partout, de la côte Est à la côte Ouest, avec peu de temps. Donc là, j'ai vraiment appris mon métier.
Vous dites, on pensait même que j'habitais aux États-Unis. Ça a été difficile de se retrouver plus connu aux États-Unis que dans son propre pays.
Un petit peu. En même temps, bon, j'avais suffisamment d'activités et de concerts pour être heureux et m'épanouir. Alors, effectivement, j'essayais à chaque fois que je revenais en France, j'essayais d'importer un peu ce que je faisais là-bas en essayant d'expliquer un peu. Et puis, ça prenait pas vraiment, donc j'avais quelques concerts, mais pas énormément. Et à ce moment-là, une question s'est posée d'ailleurs, parce que au bout de 2 ou 3 ans après le Van Cliburn, bon, les choses ont commencé à se ralentir un petit peu malgré tout aux États-Unis, parce que les engagements directement liés à l'obtention du prix étaient terminés. Le concours a lieu tous les 4 ans, donc au bout de 3 ans, il faut passer à la préparation du concours suivant. Mais enfin, j'avais tout de même un agent aux États-Unis qui s'occupait de moi. Et à ce moment-là, on m'a conseillé, ce que énormément de lauréats de concours aux États-Unis font, de prendre une position de ce qu'ils appellent artiste en résidence. Dans une université, par exemple, où vous enseignez, où vous avez la possibilité de donner des concerts, mais où on vous laisse quand même suffisamment de liberté pour pouvoir continuer à voyager, à partir en tournée. J'ai énormément hésité et j'ai finalement décliné. J'aurais peut-être dû accepter parce que j'étais à un âge où de toute façon il faut tout tenter. Mais justement, mon souci de ne pas avoir assez de choses à faire en France et le fait qu'on pensait que j'étais aux États-Unis m'a conduit à me décider à rester vraiment en France et à continuer à aller aux États-Unis quand je jouais. Ai-je eu tort, ai-je eu raison, j'en sais rien. Bon, c'est la décision que j'ai prise et en fin de compte, je suis content quand je fais un peu le bilan, que je regarde ça avec un peu de recul, d'avoir pu maintenir quelque chose aux États-Unis, une activité qui est certes moins importante quantitativement à ce que j'ai pu faire dans les années qui ont suivi le Van Cliburn, mais qui est toujours là, et puis à pouvoir développer quelque chose ici en France, en Europe, et puis même dans d'autres pays, puisque j'ai eu l'occasion ensuite d'aller aussi en Asie, en Australie.
Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, Philippe Bianconi, et qui quand même est important, parce qu'après Gaby Casadesus, vous avez eu un autre professeur.
Oui.
Et cet autre professeur, là, c'est une autre culture, c'est un homme. Comment s'appelle-t-il et pourquoi est-ce que vous allez le voir
Eh bien, je ne peux pas dire qu'il me manquait quelque chose. En tout cas, je n'avais pas la sensation qu'il me manquait quelque chose. Cependant, des amis m'ont parlé d'un professeur russe qui s'appelait Vitaly Margulis, qui avait fui l'Union soviétique et qui s'était installé en Allemagne de l'Ouest, à Fribourg, et donc qui m'en avait dit le plus grand bien. Et j'ai eu envie je me suis dit, tiens, c'est un profil qui est quand même très différent de tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. J'ai envie d'aller lui jouer quelque chose et de voir ce que ça peut donner. Et donc je l'ai contacté. Il a été très très enthousiaste immédiatement. Bon, il avait une grande maison. Il m'accueillait chez lui, c'est-à-dire que je restais 2 ou 3 jours. Donc je dormais chez lui, je mangeais avec lui et son épouse et son fils. Et puis, en dehors des repas et des nuits, on travaillait tout le temps. Et ça a été vraiment extraordinaire parce que c'était quelqu'un d'une immense générosité. Il ne comptait pas son temps. Il voulait me donner le maximum de ce qu'il pouvait.
Quelle a été la grande découverte avec lui? Est-ce que c'est un autre rapport au clavier? Vous avez parlé de cette main qui s'avance dans la touche déjà, du poids du corps.
Oui.
Est-ce que là, c'est une autre architecture, j'allais dire?
Alors, architecture, oui, sur le plan musical. Sur le plan purement technique et physique, j'ai été absolument stupéfait parce que la première fois il m'a entendu, moi, j'étais convaincu, je me suis dit, c'est l'école russe, le grand piano russe, etc. Il va falloir tout reprendre à zéro. Et il m'a dit, vous savez, j'ai pas grand-chose à vous dire du point de vue technique. Votre technique, elle est déjà là, elle est déjà solide. J'étais absolument stupéfait, presque un peu déçu quelque part. Enfin, à la fois déçu et à la fois soulagé. Et puis, en même temps, évidemment, ça m'a rassuré. Je me suis dit, bon, ça veut dire aussi que j'ai pas fait fausse route jusque-là et que je suis sur la bonne voie. Il travaillait aussi sur le mental quand même, c'est-à-dire sur le fait que beaucoup de difficultés qu'on peut rencontrer peuvent venir de blocages mentaux. Donc ça, il m'a fait travailler là-dessus. Et puis ensuite, musicalement, alors c'était quelqu'un effectivement qui travaillait énormément sur l'architecture des œuvres. Et en même temps, il était extraordinairement dans le détail aussi, parce que c'est quelqu'un qui faisait un travail extrêmement fouillé sur l'harmonie, sur la polyphonie. Lorsqu'on abordait des choses extrêmement denses sur le point de vue de l'écriture, notamment au troisième de Rachmaninoff, il y a un tel nombre de notes, il y a 3 millions de notes à la minute, enfin c'est effrayant. Il mettait le doigt sur ce qui était important. C'est pas qu'il fallait pas jouer toutes les notes, mais il fallait mettre en valeur ce qui était important musicalement.
Les choses saillantes.
Quoi. Les choses saillantes sur le plan du détail, mais aussi justement sur le plan de l'architecture. Ce qui permettait que l'oreille soit toujours guidée par quelque chose d'important, par un discours clair.
Thank you. C'est sur cette sonate numéro 3 de Scriabine par le maître Vitaly Margulis que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec Philippe Bianconi. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Éric Boisset, mixage Pierrick Charles, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.